France Musique. Musicopolis. Entre 1427 et 1452, duché de Bourgogne. La cour du duc de Bourgogne est l'une des plus fastueuses d'Europe, à tel point qu'elle est un modèle pour nombre de souverains. À l'époque qui nous intéresse, c'est le duc Philippe le Bon qui règne. Il n'est pas roi, mais il a une véritable indépendance au milieu des grands pays européens, Angleterre, France, Saint-Empire germanique. Il mène une politique d'expansion de son duché, par quelques batailles et surtout par des mariages et des achats. C'est ainsi que son domaine va bientôt s'étendre d'une part sur la Bourgogne proprement dite, une Bourgogne élargie qui va de Nevers à Besançon, de Mâcon à Bar-sur-Seine, et d'autre part sur quelques Pays-Bas au nord, qui s'étendent eux d'Amiens à Utrecht, de Bruges à Luxembourg. Pour faire régner la paix sur de si vastes territoires, éclatés et disséminés, dont les villes les plus distantes sont éloignées de près de 1000 km, le duc Philippe le Bon est obligé de se déplacer pour se rendre dans les différents centres de son pouvoir. Parfois à Dijon au sud, mais la plupart du temps au nord, dans les villes de Lille, Bruges et Bruxelles. Donc, vous l'avez compris, lorsque je vous annonce « duché de Bourgogne » comme situation de la musique que nous écoutons aujourd'hui, je ne parle pas de l'appellation géographique de notre 21e siècle, mais du duché de Bourgogne tel que l'a établi le duc Philippe le Bon en plein 15e siècle. Un souverain dont la longévité est exceptionnelle puisqu'il règne presque 50 ans, de 1419 à 1467. Pendant ce temps, il établit son pouvoir non seulement par l'extension territoriale, mais aussi en exposant aux yeux de tous, vassaux, sujets, rivaux, ennemis, une cour fastueuse qui se fait remarquer dans tous les domaines des arts et des divertissements. Le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, passe beaucoup de temps à se déplacer d'un point à un autre de son duché, le plus souvent dans la région des Pays-Bas. Pour la plupart de ses déplacements, c'est toute la cour qui le suit, avec ses vassaux et tous les fonctionnaires de son administration. C'est aussi sa maison, avec tous les valets et servantes, et bien sûr, sa famille, épouse, enfants et famille élargie, neveux, nièces et enfants illégitimes nombreux. Dans cette suite considérable se trouvent aussi des musiciens. Le duc entretient deux institutions musicales, une chapelle pour la musique religieuse et des ménestrels pour la musique profane. La musique est présente à la cour de Bourgogne à chaque occasion de la vie. En dehors des repas et veillées de tous les jours, les moments exceptionnels sont légion. Les banquets, les entrées cérémoniales dans les villes, les conférences d'État, les joutes et les tournois, les mariages ou les baptêmes. Pour la musique religieuse, le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, dispose d'une chapelle, c'est-à-dire d'un chœur. On connaît sa composition en 1445, elle comprend alors 23 chanteurs et on dit que c'est l'une des meilleures qu'on puisse trouver en tout lieu. Parmi ces musiciens, on trouve plusieurs compositeurs, Pierre Fontaine, Binchois, Constant Breuve, Robert Morton et Gilles Joye. Le poète Martin Lefranc assure qu'il a vu aussi Guillaume Dufay à la cour. Et on peut imaginer que nombreux sont les musiciens à venir se faire entendre dans la ville où se trouvent les Bourguignons. Les membres de la chapelle de Bourgogne sont tenus de servir comme exécutants, compositeurs, professeurs et scribes. Et ils doivent assister aux célébrations quotidiennes de la messe et des heures canoniales. La liturgie est chantée généralement en plein chant monodique, mais lors des grandes fêtes de l'Église, le service est plus fastueux et inclut des hymnes polyphoniques ou des mouvements de messe pris dans la bibliothèque musicale de la chapelle. Le père de Philippe le Bon, Jean Sempeur, possédait déjà 3 manuscrits de polyphonie sacrée et 2 volumes d'œuvres de Machaut. À son tour, son fils Philippe a lui aussi passé commande de nouvelles pièces. Le compositeur de ce Da Pacem Domine et de toutes les pièces que nous avons écoutées depuis le début de l'émission est Binchois. Ou plus exactement, Gilles de Binche dit Binchois. D'après les textes, on peut penser que Binchois est une manière de sobriquet, son vrai nom étant Gilles de Binche. On ne sait pas exactement à partir de quand il a fait partie de la chapelle bourguignonne, parce que plusieurs années de registres de paiement sont manquantes. Or, à défaut d'autres documents plus personnels, c'est généralement sur ce genre de papier que les musicologues s'appuient pour élaborer la biographie des musiciens. Par divers recoupements, on peut néanmoins penser qu'en 1427, Binchois est membre de la chapelle depuis déjà un certain temps. Il y restera au moins jusqu'en 1452. Toujours par les registres, on sait que Binchois n'avait pas de diplôme universitaire et qu'il n'était pas prêtre. Il a néanmoins été ordonné sous-diacre en 1437. Cette année-là, il est nommé secrétaire honoraire de la cour et au mois de juillet, on lui octroie 28 sous pour avoir procuré à la duchesse un anneau qui soigne le mal de dents, ce qui laisse supposer qu'il a aussi quelques talents de guérisseur. Notre Gilles de Binche, dit Binchois, est né très probablement vers 1400 à Mons. Et il a sans doute reçu son éducation dans cette ville, dont la cour est alors très proche de celle de France et de celle de Bourgogne. Son premier poste officiel semble avoir été justement à Sainte-Vaudru, la collégiale de Mons. Sure. Les premières traces écrites concernant Binchois l'appellent « Maître Gilles l'organistre », qui joue donc les orgues de Sainte-Vaudru de Mons. Puis, en 1423, il paye pour le privilège d'aller vivre à Lille. Le jeune Binchois a dû connaître une renommée extraordinaire, puisque dès 1428, s'il est vraiment né en 1400, il a donc 28 ans, ses chansons sont recopiées dans un manuscrit en Italie, donc très loin de Mons ou de Lille. Et il faut prendre en considération que la compilation de chansons dans un manuscrit est chose fort coûteuse et rare et longue à mener à bien. Que ses œuvres soient copiées si loin de chez lui montre assez en quelle estime sa musique est alors tenue. Cette estime continuera sa vie durant, puisqu'on trouve ses œuvres dans une cinquantaine de manuscrits qui s'étalent sur tout le XVe siècle. Sa renommée est encore attestée par l'influence qu'il a eue sur ses successeurs, par le fait que ses chansons soient reprises et qu'on lui consacre une déploration à sa mort.
Mort, tu as navré de ton dard le père de joyeuseté, en déployant ton étendard sur Binchois. Patron de bonté.
Mort, tu as blessé de ton trait le père de la joie en déployant ton étendard sur Binchois, le maître de bonté. Ces mots sont ceux de la déploration qu'Ockeghem a composée à la mort de notre musicien. C'est d'ailleurs dans ce texte qu'on apprend quelques renseignements sur l'homme. Il est décrit au début comme joyeux et bon. Et la troisième strophe nous en dit plus encore. Dans sa jeunesse, ce fut un soldat à la vie respectable. Puis il a fait le meilleur choix en servant Dieu avec respect. Il a tant servi la religion que son nom est renommé, qui le maintient très volontiers. Un autre texte de l'époque de Binchois nous en dit beaucoup également sur sa renommée. C'est le long poème de Martin Lefranc, le champion des dames, dont un manuscrit richement enluminé a été offert au début des années 1440 à Philippe le Bon, duc de Bourgogne et patron de notre musicien. Après avoir évoqué quelques compositeurs de l'époque précédente qui ne sont plus à la mode, Lefranc nous dit « Dufay et Binchois ont pris nouvelle pratique ». De faire frisque concordance et ont pris la contenance anglaise. Pourquoi merveilleuse plaisance rend leur chant joyeux et notable.
Ooh.
Binchois a composé aussi bien de la musique religieuse que des chansons. Et il a été reconnu, semble-t-il, comme le plus grand de son époque, au-dessus même de Dufay et d'Unstable. Néanmoins, Dufay, ayant écrit bien plus de messes et de musique religieuse que Binchois, a été pris par conséquent comme le principal compositeur du XVe siècle par les musicologues lors des premières études sur la musique de cette époque. Mais on commence à réévaluer Binchois et à mesurer aujourd'hui l'importance de son œuvre. Il est enregistré de frais pour renouveler encore notre plaisir de l'écouter. Filles à marier, ne vous mariez jamais, c'est-à-dire filles à marier, ne vous mariez jamais, de Gilles de Binse, dit Binchois, par l'ensemble Comet Music, dirigé par Francisco Magnalich, un disque qui vient tout juste de sortir. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Pour nous écrire, rien de plus simple, vous cliquez sur l'onglet « Contact ». Notre grande petite équipe était composée aujourd'hui de Jean-Michel Bernot pour le mixage, Philippe Petit pour la réalisation et Max Dosolm pour les recherches et le site. À réécouter sur francemusique.fr.